Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, Escale vous invite au siège de l'ONU pour assister au tournage du film Quai d'Orsay. Un film dirigé par Bertrand Tavernier, un long métrage inspiré de la bande dessinée sur les coulisses et péripéties quotidiennes des conseillers d'un flamboyant ministre français des Affaires étrangères, devenu célèbre en 2003 pour s'être opposé à l'invasion de l'Irak. Alors Abel Lanzac, on est ici aux Nations Unies, c'est un week-end, l'équipe de Bertrand Tavernier et vous-même, donc vous êtes venus procéder donc au tournage de certaines scènes du film, notamment au Conseil de sécurité, donc ce film Quai d'Orsay qui met, et vous allez nous en parler, donc en scène l'époque de 2003 et de la préparation et du fameux débat au Conseil de sécurité sur la guerre imminente en Irak avec l'intervention de Dominique de Villepin, le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Donc comment êtes-vous arrivé en étant acteur à l'époque de ces faits à aujourd'hui vous retrouver finalement derrière la caméra et avoir été donc le co-scénariste de ce film?
J'ai toujours eu envie de raconter cette histoire parce que dès le départ, moi je l'ai vécu de façon très étrange. Tout me paraissait à la fois plein de sens et très, très bizarre. J'ai voulu restituer cette bizarrerie, d'abord dans une bande dessinée avec Christophe Blain. Et puis ensuite, suite à cette bande dessinée, Bertrand Tavernier a eu envie de l'adapter au cinéma. Et donc ça s'est fait comme ça, c'était pas du tout prévu. Moi, je pensais pas du tout que la bande dessinée, ce serait une bande dessinée qui serait lue au-delà du cercle des gens qui connaissent ce milieu-là. Donc, j'étais surpris moi-même par le fait qu'elle soit lue au-delà. Et donc, c'est une aventure comme ça qui était totalement imprévue, dans laquelle j'ai pris, je dois dire, vraiment beaucoup de plaisir. J'ai trouvé que la possibilité de montrer une vision de ce que c'est que le travail dans ce milieu-là, comment les points de vue se confrontent, comment les rapports de force influent aussi sur la fabrication de la vérité, c'était vraiment passionnant. Et le travail d'écriture là-dessus m'a vraiment beaucoup intéressé.
Alors, pour essayer de sérier un peu, vous avez été membre donc de ce cabinet du ministre des Affaires étrangères pendant plusieurs années. Vous avez, avant qu'on arrive à 2003, vous étiez donc déjà dans l'équipe du diplomate qui est Dominique de Villepin dans d'autres postes avant, ou est-ce que vous avez juste rejoint le ministre quand il a été nommé?
Oui, moi j'ai fait partie de plusieurs cabinets ministériels, effectivement, et je faisais partie de son équipe. Et donc, effectivement, pour moi, c'est un peu schizophrénique, le fait de revenir dessus maintenant, de revoir restituer, minute après minute, la vie qui a été celle de l'époque. Et donc, pour moi, c'est passionnant.
Donc, résumons-nous, une bande dessinée coécrite par l'une des plumes de Dominique de Villepin, lui-même rebaptisé pour l'occasion Alexandre Taillard de Vamps, un album publié chez Dargaud, ciblant les initiés, mais qui finit par connaître un vrai succès de librairie avec une suite et presque 200 000 exemplaires vendus. Une BD qui à son tour attire l'attention de Bertrand Tavernier. Ce dernier explique pourquoi il a voulu l'adapter au cinéma.
Moi, ce qui m'a touché dans Quai d'Orsay, en dehors de l'apport considérable de Christophe Blain dans les dessins, qui était formidable, c'était la vérité. La vérité dans les dessins, mais la vérité aussi, y compris avec un côté de farce, un côté de comédie, un côté délirant, la vérité dans l'histoire, dans les dialogues, dans les personnages. Il y avait un mélange de folie absolue, de délire, de cocasserie. Et le sentiment que derrière cette cocasserie, il y avait des choses importantes, il y avait une réalité. Quelqu'un comme Hubert Védrine trouvait que Quai d'Orsay était ce qu'il avait lu de mieux, vraiment de mieux, roman, essai compris, sur le pouvoir et sur le travail d'un ministère, sur les rapports de pouvoir à l'intérieur d'un cabinet, d'un ministère. Voilà, donc la bande dessinée, elle permet aussi non seulement d'explorer des domaines de fantaisie, de mettre en lumière des héros, des choses comme ça, mais elle permet aussi d'aborder toutes sortes de sujets. Et là, c'était ce qui m'intéressait.
Est-ce que vous êtes parti donc de la lecture, comme tout un chacun de cette bande dessinée, de ce livre, et en refermant le livre, vous êtes dit, ça y est, je veux faire ce film, je veux faire un film sur cette histoire, ou est-ce que ça a été un processus un peu plus long?
Non, ça n'a pas été long. Dès que je l'ai lu, j'ai eu envie de l'adapter. Dès que j'ai lu, j'ai trouvé que ça recoupait tout ce qui m'est cher. Il y avait la possibilité de faire un film sur le boulot, sur les gens qui travaillent dans l'ombre, qui bossent comme des malades, et dans des conditions souvent extravagantes, soumis à des caprices erratiques d'un ministre qui a par ailleurs des visions fulgurantes, mais qui vous lance les ordres les plus contradictoires et les plus chaotiques. Et vous devez vous démerder. J'ai été frappé de l'énorme somme de connaissances qu'avaient les personnages. C'est des gens qui connaissent leur dossier de manière incroyable. Donc c'est ça ce qui m'intéressait. C'était ça, de mêler ces personnages qui sont des bosseurs, qui savent, qui connaissent ce dont ils ont à parler et qui sont confrontés à des pratiques ahurissantes, obligés de taper des discours dans des conditions infernales, discours qu'on leur fait refaire sans les lire. Voilà. Alors tout ça, ça m'intéressait. J'avais l'impression de retrouver ce que j'avais déjà montré dans L627, dans La vie, rien d'autre, dans Ça commence aujourd'hui. Les gens qui bossent, qui bossent, qui bossent au milieu d'un bordel indescriptible et tout d'un coup sort quelque chose qui est assez sidérant de tout ce bordel.
Un scénario donc écrit à trois, une équipe de tournage avec assistants, maquilleuses, éclairagistes, des dizaines de figurants, y compris un Kofi Annan assez ressemblant, siégeant dans la salle du conseil de sécurité, sans oublier ingrédients fondamentaux, des acteurs, avec dans le rôle d'Alexandre Tailleur de Worms, Thierry Lhermitte. Ce dernier a bien voulu confier ses impressions.
Thierry Lhermitte, vous êtes l'acteur donc de ce film Quai d'Orsay qui est tourné ici aux Nations Unies. Alors d'abord, quelle est l'impression que vous avez de ce grand décor, de ce temple onusien?
C'est très impressionnant d'arriver dans la salle des séances plénières et dans le conseil de sécurité. C'est même plus qu'impressionnant, c'est émouvant d'imaginer que toutes les affaires du monde se sont traitées là. On a le souvenir de scènes historiques, moi j'ai vu à la télévision, et se retrouver là pour de vrai, c'est vraiment une chance pour des citoyens et pour des acteurs en particulier. Ouais.
Alors Quai d'Orsay, c'est un film qui parle de toute cette période, il y a une dizaine d'années, sur le conflit en Irak et l'intervention donc internationale là-bas, avec le fameux débat du Conseil de sécurité et l'intervention de Dominique de Villepin. Est-ce que c'est un discours, est-ce que c'est une actualité que vous aviez suivie à l'époque?
Oui, j'ai suivi cette actualité comme la plupart des gens, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a la guerre ou pas, bien sûr. Je me souviens du discours, je me souviens des débats qu'il y avait autour. Non, c'est vraiment formidable d'avoir la chance de jouer ça dans le lieu où ça s'est passé, c'est extraordinaire.
Une salle du Conseil de sécurité chargée de mémoire qu'apprécie particulièrement Bertrand Tavernier, qui se réjouit de pouvoir tourner en décor naturel. Un lieu exceptionnel, source d'inspiration et plus encore d'émotion.
Quand même, c'est un lieu où se sont passés des événements énormes, immenses, des affrontements mémorables. Et là, j'en évoque un qui a laissé beaucoup de souvenirs, qui est resté comme une des grandes pages quand même de l'histoire de cette institution.
Alors en tant que réalisateur, on le sait, ce temple donc onusien, comme il est décrit, cet immeuble de verre a hébergé déjà quelques films, mais pendant très longtemps l'accès à ces bâtiments était interdit, même Hitchcock n'a pas pu tourner. Il y a un de vos prédécesseurs célèbres, qui Sidney Pollack, a pu tourner un film il y a quelques années. Qu'est-ce que là ça vous inspire justement de pouvoir enfin accéder à un vrai décor? C'est vraiment ici que se sont passés les événements qui sont décrits dans votre film?
Moi, j'ai toujours été un grand défenseur des décors naturels. Le studio, c'est très très bien, on peut reconstituer des choses. Et à l'époque de Hitchcock, le studio, Hitchcock adorait le studio et surtout, les gens avaient les moyens de pouvoir tout reconstruire, des énormes décors. Mais je trouve que de tourner dans le vrai lieu, ça vous amène des idées, ça vous amène... Il y a quelque chose qui se passe. Même dans un film qui est un peu une comédie, mais qu'une comédie avec un arrière-plan sérieux comme Quai d'Orsay, je trouve important. Et très souvent, j'ai beaucoup tourné en décors naturels, et très souvent, les décors naturels m'ont donné des idées de dialogue, de scène, de plan, plus peut-être que le studio.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience, la lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
Un moment historique dont avait clairement conscience le ministre français en février 2003 et par contre-coup ses collaborateurs. À l'instar d'Abel Lanzac qui sous son vrai nom poursuit sa carrière tout en découvrant de nouveaux savoir-faire. Ainsi, après la BD, Abel Lanzac est devenu co-scénariste pour le cinéma.
C'est un exercice très différent, le cinéma est un médium beaucoup plus riche parce qu'il y a du son, il y a de la musique, il y a une image continue, mais des fois plus contraignant. Parce que dans la bande dessinée, on montre ce qu'on a envie de montrer, on met les choses dans une case et puis après on passe à la case d'après. Là, la caméra, elle se promène, on voit ce qu'il y a autour, la temporalité n'est pas la même. Donc c'est un autre exercice vraiment. Et donc ce que ça demande, c'est d'arriver à passer complètement dans autre chose, à s'imaginer le film, à essayer d'en avoir une vision. et à la construire avec le réalisateur. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et à travers plusieurs versions, ça a été un aller-retour, une maturation, des relecteurs critiques qui ont fait qu'on a amélioré au fur et à mesure la première version qu'on avait faite tous ensemble.
Un décor, un scénario, un script, bref, un projet bien ficelé auquel il faut toutefois donner vie, ce qui suppose une interprétation, un travail d'acteur sur lesquels revient Thierry Lhermitte.
Écoutez, c'est très bien écrit, j'ai juste fait mon travail d'acteur qui consiste à dire le texte qu'on me propose le mieux possible. Voilà, le reste, c'est le metteur en scène et le scénariste qui font en sorte que ce soit intéressant, cohérent et avec l'époque qui est dite. Et d'autre part, il n'y a aucune imitation qui est recherchée. Donc j'imite pas du tout Dominique de Villepin, j'essaie d'interpréter le texte qui est écrit et qui est extrêmement brillant.
On a pu assister donc au tournage, nous, donc derrière les caméras. On voit qu'il y a à la fois une concentration et en même temps c'est relativement bon enfant. On fait les prises et c'est terminé, il n'y a pas de retouche ou autre. C'est très professionnel et en même temps très détendu. Est-ce que c'est une façon générale de tourner ou est-ce que c'est vraiment spécifique à ce réalisateur?
Non, c'est spécifique à Bertrand Tavernier, vraiment, qui met une ambiance absolument merveilleuse d'une part de cinéaste qui sait exactement ce qu'il veut, donc qui ne fait pas 50 000 plans en se demandant lequel il va monter. Il a son film en tête, donc ça, c'est formidable pour les acteurs. Et puis, en plus, il domine son sujet, puisqu'il a fait partie de l'écriture. Et c'est un homme charmant, cultivé, qui met une ambiance merveilleuse dans le tournage. Donc, vraiment, c'est un des meilleurs tournages que j'ai jamais fait.
Un choix de Thierry Lhermitte et un échange de compliments qu'assume pleinement Bertrand Tavernier.
Il y a eu beaucoup de raisons qui m'ont poussé à prendre Thierry Lhermitte. Je trouve qu'il avait une élégance, une gestuelle, une allure, bien, qu'il y a un regard avec ses yeux très bleus. Ce qui fait que quand il dit même les choses les plus extravagantes, moi j'ai envie de le croire. Il amène une crédibilité même au plus grand dérapage, à la folie la plus énorme. Et ça, je trouvais que c'était intéressant, qu'il n'avait pas peur d'aller très loin. En plus, Thierry, je l'ai vu faire presque son premier film, un petit rôle dans Que la fête commence, puis dans Les enfants gâtés. Et on s'était un peu perdu de vue. Et je trouve que c'était bien. C'est quelqu'un qui est un acteur génial, qui n'a pas donné dans ces dernières années des rôles qui soient à sa mesure. Donc c'était aussi bien. C'était pour moi, c'était un plaisir. Et ça a été un bonheur de travailler avec lui, comme avec les autres acteurs du film. Mais un bonheur. Mais entre lui, Nils Arestrup, Raphaël Personnaz, Anaïs de Moustier, et tout ça, c'était formidable. Mais Thierry, il est magnifique, magnifique. Voilà.
Bertrand Tavernier qui, en guise de conclusion, revient sur sa façon très personnelle de diriger les acteurs, d'animer l'équipe de tournage. Un style de direction où la courtoisie n'exclut nullement l'exigence et la rigueur.
Oui, ça a toujours été ça, mais je pense que le film est aussi bien préparé, bien pensé, qu'on a travaillé en amont avec les comédiens, que je suis tout le temps avec eux, que je suis tout le temps aussi avec le co-scénariste en train de peaufiner un détail, de changer une réplique à la dernière minute. Et en même temps, après, mon travail, c'est de créer des espaces confortables pour les acteurs. C'est moi tout l'essentiel, c'est que les acteurs arrivent à être à l'aise, jouent sans marque, sans se sentir prisonnier de la technique. J'essaye de leur faire oublier toute la technique. Et après, c'est moi qui vais après choper des réactions, attraper des choses inattendues. Oui, puis j'ai envie qu'il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas. On fait le plus beau métier du monde. Pourquoi est-ce qu'on faudrait le faire en hurlant, en criant, en étant de mauvaise humeur? Il y a une croyance, il croit que c'est dans la souffrance qu'un auteur crée. Et moi, je pense que parmi les plus grands cinéastes, il y en avait qui s'amusaient comme des fous. De Renoir à Pagnol, en passant par de très très grands cinéastes français. Je pense Romère ne créait pas dans les hurlements. Bon. Et j'ai pas besoin, moi, de jouer les tyrans pour imposer ce que je veux. J'arrive à convaincre, les gens me suivent. Donc voilà, rigolons un peu pendant le tournage et ça ira bien.
Voilà, et c'est avec Bertrand Tavernier et toute l'équipe du tournage du film Quai d'Orsay, un film qui devrait sortir dans les salles à l'automne 2013, que se referme ce magazine Escale. Un magazine préparé, présenté cette semaine par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Florence Westgaard et de Zach Pruitt. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. En attendant fin de ce magazine, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.